plus que toi encore nous enseigner ce soir. Et la gloire, la louange et l'honneur te reviennent à toi et toi seul. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, gloire à Dieu? Merci. Bonsoir à tous. Tu peux saluer ton frère de gauche et de droite. Est-ce que vous qui êtes caché là-bas pouvez venir par ici? Viens voir tout le monde. Merci. Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Alors, avant de rentrer dans l'enseignement de ce soir, j'aimerais inviter notre soeur Elga qui va nous apporter une courte exhortation de 10 minutes. On acclame le Seigneur et sa vie. Alléluia. C'est Elga.
Bonsoir à tous. Je voudrais que nous prions. Dieu de gloire, Dieu de paix, mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme t'exalte, Seigneur, parce que tu es un Dieu fidèle, Seigneur. Père, je te dis merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, Seigneur, car il t'a encore plu, Seigneur. Père, de nous garder, Seigneur Dieu Père éternel, en vie, Seigneur, car de nombreux ne sont pas, Seigneur, ne sont plus en vie, Seigneur. Certains, Père éternel, se sont retrouvés très loin de nous, Seigneur. Mais dans ta bonté, dans ta fidélité, Seigneur, dans ton amour, il t'a plu, Seigneur Dieu Père éternel, de nous compter parmi les vivants, Seigneur. Père, juste pour ce souffle de vie, Seigneur, Père, je veux te dire merci, Seigneur. Père, je veux te recommander encore ces moments que nous allons passer en ta présence, Seigneur. Laisse que, Père éternel, tu croisses et que moi je diminue, Seigneur. Père éternel, que tu prennes, Seigneur Dieu Père, le contrôle et toute la place, Seigneur. Que toute la gloire, l'honneur te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Ben, je dis merci au pasteur Douglas pour cette marque de confiance de m'accorder la chair. Ça va être un peu difficile, 10 minutes. Alors mon thème sera basé sur c'est sur la consécration. Alors, j'ai deux textes. Je ne vais pas trop me détailler puisque j'ai... Alors, le premier texte sera sur le livre de 1 Samuel 1, versets 10 à 11. Alors, 1 Samuel 1, le verset 10 à 11. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes garder, tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passerait point sur sa tête. Le deuxième texte, je dirais j'ai trois textes. Le deuxième texte, ça serait sur le livre de 1 Jérémie 1, 4 à 5. Si quelqu'un est sur la page, peut m'aider à lire. Jérémie 1, 4 à 5. Jérémie 1, 4 à 5. Si quelqu'un a trouvé. Amen. Et le dernier passage, qui sera mon texte de base, sera sur le livre de Luc 9 et le verset 23. Luc 9, 23, je vais le lire. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Je lirai jusqu'à 24. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Amen. Alors, le thème, la consécration, c'est un grand thème. Il y a beaucoup de points. Par rapport au temps qui m'est accordé, j'aborderai deux petits points. La consécration, que nous dit la consécration? D'après le dictionnaire, d'après le Larousse, on nous dit, d'après la définition de la consécration qui vient du verbe consacrer. Consacrer qui veut dire sanctifier, préparer, dédier, être séparé d'eux. Consacré ou codec aussi, par rapport aux enseignements que nous avions reçus par le pasteur Douglas. La consécration est le rite par lequel, ça c'est toujours la définition du dictionnaire, la consécration est le rite par lequel on affecte au service de Dieu une personne, une chose qui par là entre dans la catégorie du sacré. Et d'après les Écritures, la consécration qui n'est rien d'autre que le fait de mettre à part. C'est la mise à part, mettre à part quelque chose ou quelqu'un, mettre à part une personne. En essayant de parcourir les Écritures, j'ai essayé de souligner deux points. Et le premier point, je resterai sur mon texte de base qui est le livre de Luc 9, 23. Je vais le relire, il dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Donc nous voyons que la consécration demande la renonciation à soi-même. Pour être consacré, pour se consacrer à Dieu, nous devrions prendre cette décision de renoncer à soi-même. Par rapport aux enseignements que nous avions reçus plus loin avec le pasteur Douglas, il disait que il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de consécration sans sacrifice. Je dirais que la base de la consécration, c'est le sacrifice. Le sacrifice qui est nous sommes le sacrifice. Quand nous essayons de voir plus loin, la parole nous dit, c'est un verset qui est connu de tous, dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Nous voyons qu'au travers, par rapport à ce verset, nous voyons comment est-ce que Dieu, par cet amour, par l'amour pour le monde, ne voulant pas que le monde se perde, il a donné son Fils unique. Nous voyons par rapport à ce verset qu'il y a eu un sacrifice pour que le monde soit sauvé. Dieu a donné son Fils unique. Donc, s'il est question de revenir à notre texte, donc le premier point, la base de la consécration, c'est le fait de renoncer à soi. Renoncer à soi, qui veut dire quoi? Renoncer, chacun de nous, nous venons de loin. Avant de connaître le Seigneur, nous avions des passions, nous avions des manquements, nous avions plein de défauts. Renoncer à soi, ça veut dire que si nous sommes une personne, moi personnellement, je suis une personne, dans mon parcours, j'étais une personne, un peu l'orgueil, je ne sais pas comment le qualifier, mais j'avais une personnalité, j'avais une forte personnalité dans le sens où j'avais le côté qui, ce petit côté d'orgueil en moi que je ne voulais pas qu'on le touche. Mais à toute fois, je me justifiais, je me disais que non, ce n'est pas de l'orgueil, en fait, c'est ma personnalité, c'est ma façon d'être. Et c'était un combat. Quand j'ai accepté de suivre le Seigneur, il fallait renoncer à soi, il fallait renoncer à ces choses-là, renoncer à l'orgueil, renoncer à des choses que nous tenons tant. Il y a beaucoup de choses, chacun de nous se connaît, ça peut être le mensonge, nous pouvons être dans le Seigneur, mais avoir du mal à renoncer à certaines choses. Donc, dans ce cadre-là, dans la consécration, le Seigneur nous demande de renoncer à soi. Donc, tant qu'il n'y a pas renonciation, nous ne pouvons pas parler de la consécration. Ça, c'est le premier point de la consécration. Et dans le deuxième point, toujours dans Luc 9, il nous dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. » Alors, que veut dire se charger chaque jour de sa croix ? Voyons qu'à Golgotha, le Seigneur avait porté la croix qui symbolisait les souffrances, la croix qui symbolise les épreuves dans la marche chrétienne. Une fois qu'on a pris cet engagement, cette décision de renoncer à soi, après, nous devrons accepter de porter la croix, cette croix qui n'est pas du tout facile. Personnellement, en le portant, il y avait des moments où je pleurais, j'ai dit « Seigneur, c'est dur, si c'est vraiment ça la consécration, c'est pas facile. Il faut porter la croix. Porter la croix, ça veut dire supporter les critiques. Ça veut dire que supporter l'humiliation, puisqu'à la croix, le Seigneur Jésus a supporté ces choses. Lui qui était un homme parfait, lui qui n'avait pas connu le péché, mais il avait accepté de mourir à la croix. Il avait accepté l'humiliation, il avait accepté que les hommes crachent sur lui. Tout ça pour que le monde soit sauvé. Tout ça pour que nous, aujourd'hui, nous soyons aujourd'hui fiers d'être enfants de Dieu. Donc, c'est ça, en fait. Donc, le fait de porter la croix, c'est d'accepter les épreuves, c'est d'accepter la souffrance, cette souffrance que le Seigneur a endurée à la croix. Et nous également, nous devrions dire que quand nous acceptons, nous prenons cet engagement, nous devrions nous attendre à ces choses-là. Nous ne devrions pas penser que la vie chrétienne est une vie merveilleuse. Non, c'est une vie remplie d'épreuves, puisque le Seigneur lui-même, il a vécu. Il a dit, soyez mes imitateurs, il a dit, portez, il nous demande de porter la croix, notre croix, et de le suivre, en fait. Donc, c'est en quelque sorte à cela que le Seigneur nous demande. Donc, la consécration qui implique également cette phase de souffrance, cette phase qui n'est pas du tout, qui n'est pas facile, où c'est vrai que deux fois, on montre aux hommes que nous sommes joyeuses, mais des fois il y a des pleurs. Quand on est dans le secret avec le Seigneur, on a des genoux fléchis par terre, on dit Seigneur, si c'est ça vraiment la consécration, si c'est ça la vie avec toi, vaut mieux que je renonce. Mais tu diras, mais je veux renoncer, je veux aller où? Dans le monde, il n'y a rien de bon dans le monde. Dans le monde, nous nous sommes passés par là. Donc je dirais qu'il n'y a pas plus meilleure vie que dans le Seigneur. Donc nous devrions nous réjouir de ces souffrances, parce que nous croyons qu'après ces souffrances, nous vivrons la victoire. Car le Seigneur, après qu'il est passé par la croix, après le troisième jour, il a été ressuscité. C'était merveilleux de savoir que notre Père, Jésus, était ressuscité, parce que nous avons cru en cela. Amen. Et le dernier point, toujours dans le livre de Luc 9, il dit qu'il se charge de sa croix chaque jour, se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Nous devrions suivre le Seigneur. Suivre le Seigneur, c'est la persévérance. Ça veut dire que nous croyons que dans ces souffrances-là, qu'il y aura quelque chose à la fin, il y aura une couronne qui nous attend plus loin, comme dans le livre, je suppose c'est dans le livre de 2 Timothée 4, 7. Je ne sais pas si quelqu'un est à la page. Le livre de 2 Timothée 4, 7. 2 Timothée 4, verset 7. Alors, 2 Timothée 4, 7. Amen. Ah. Amen. C'est pour nous dire qu'après avoir enduré ces épreuves, après avoir supporté tout ce parcours, nous gardons la foi que nous devrions déjà nous mettre dans la tête que nous combattons le bon combat. Et qu'après ce bon combat que nous combattons, qu'il y a une victoire qui est la couronne de gloire. C'est ça que nous devrions nous dire. Ce soir, je voudrais fortifier une personne. Je voudrais me fortifier aussi moi-même, dire à toutes ces personnes qui ont pris cet engagement de se donner, de donner leur vie au Seigneur, de mener une vie de consécration. C'est pour leur dire que ce n'est pas une vie qui est facile. Mais nous voulons garder la foi, nous dire qu'après, au-delà de ces souffrances, il y a une couronne de gloire qui nous attend plus loin. Amen. Je ne sais pas si je suis toujours dans les temps ou je dois continuer. J'ai été bref, en fait j'ai résumé par rapport au temps que vous m'avez accordé. Donc c'est par rapport à cela. Donc soyons fortifiés, le peuple de Dieu, soyons... La marche chrétienne, c'est une marche merveilleuse. Oui, c'est une marche remplie d'épines, mais nous croyons que tant que le Seigneur est avec nous, nous avions la victoire. Tant que le Seigneur est à nos côtés, nous sommes plus que victorieux. Amen.
Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Wow. Qui veut se consacrer encore? Merci Jésus. J'aimerais que tu dises à ton voisin, il y a une armée qui se prépare. C'est comme si tu n'es même pas convaincu de ce que je suis en train de dire. Dis à ton ami, regarde même devant toi, derrière toi, dis-lui, il y a une armée qui se prépare. Alléluia. Qui croit qu'il y a une armée qui se prépare? Amen, 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 amen. Béni soit le Seigneur, nous allons continuer. Je vais apporter ce soir quelques fondements sur... un aspect que chacun de nous est appelé à faire en tant que chrétien, justement en tant que chrétien consacré, enfant de Dieu. Je veux parler des gagneurs d'âme. J'espère que tout le monde a son cahier. Mardi, c'est les enseignements. Venez avec le cahier. Qui sont toutes les personnes qui se connectent tout le matin pour la prière? Ou sinon, au moins une à deux fois pour la prière. Et les autres? Et les autres. Merci pour ceux qui ont des chewing-gums. Mettez-les de côté, que Dieu vous bénisse. Nous avons de prières tout le matin, de 5h à 6h, et j'invite toute l'église à participer. Participez, trouvez-vous un jour, tous les départements. Si vous êtes dans un département, vous devez, avec chaque responsable de département, envoyer ceux qui sont avec vous, vous devez avoir un jour où vous vous connectez, vous priez ensemble. Nous devons faire de la prière notre mode de vie. Comme je prêchais ici sur prier avec puissance, nous ne devons pas faire de la prière un dogme. Oh, il faut prier, mais quand il faut prier, on n'est pas là. Donc nous devons nous-mêmes nous habituer à ça. Alléluia. Alléluia. Bien évidemment. Donc c'est très, très important. Alors, les gagneurs d'âme. Le gagneur d'âme. Je vais en parler aujourd'hui, certainement, si Dieu le permet, mardi prochain. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 4. Matthieu, chapitre 4, nous lisons le verset 17 au verset 20. Matthieu 4, le verset 17 au verset 20. La Bible dit ceci. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient le filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Alors il dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Luc au chapitre 19, Luc chapitre 19, le verset 9 à 10. Le frère Sylvain, il a arrêté de m'accompagner. Luc chapitre 19, versets 9 à 10. Vous avez trouvé? Il le dit. Jésus lui dit, il parle ici à Zachée, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Seigneur, inspire ta parole et parle à nos cœurs. Et fais de nous ces hommes et ces femmes qui vont dépeupler l'enfer afin de peupler ton royaume. Nous voulons nous engager dans ce grand Seigneur, dans ce grand mouvement de l'esprit, de ce temps qui sont les derniers, à être Seigneur parmi ceux-là que tu utilises et que tu vas utiliser puissamment pour amener Seigneur ton règne sur cette terre et apporter un réveil spirituel et gagner le maximum d'âmes à toi. Au nom de Jésus, j'amène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole et que cela soit enveloppé par ta nuée, que le sang de l'agneau le couvre au nom de Jésus. Amen. Les gagneurs d'âme, ce qui est un gagneur d'âme? Un gagneur d'âme n'est rien d'autre qu'un pêcheur d'hommes. Vous connaissez un pêcheur? Un pêcheur est celui qui va à la pêche dans un but. Il va jeter le filet dans l'eau et son espérance, c'est de pouvoir ramasser ou gagner le maximum de poissons, n'est-ce pas? Si vous allez dans des pays, dans des villes ou dans des villes ou dans des pays côtiers, vous allez voir, il y a beaucoup d'activités de la pêche. Vous allez voir, tôt le matin, ils sortent ou carrément même la nuit et pendant leur pêche, ils vont jeter le filet à des endroits stratégiques. Et leur but, c'est lorsqu'ils retirent le filet, ils peuvent mettre des pièges dedans, c'est pour retirer le maximum de poissons, bien sûr pour en manger, pour en vendre et ainsi de suite. Et ici, Christ fait une analogie, une comparaison entre la pêche des hommes, plutôt des poissons, et la pêche des hommes. Il s'adresse ici à Pierre, au commencement même de son ministère. Il venait d'être loin du Saint-Esprit. Il avait été envoyé par son Père sur la terre, dans le monde et aussi en Israël, et avec une mission claire, avec une feuille de route, envoyé avec un objectif. Il savait qu'il était un missionnaire. Il n'avait pas de temps à perdre et il fallait qu'il fasse de son mieux et qu'il utilise le temps qui lui était accordé par Dieu pour gagner le maximum d'hommes et préparer aussi des hommes qui vont gagner des hommes. Alléluia. Dans Luc, on l'a lu, Jésus va dire, lorsqu'il était dans la maison de Zachée, Zachée va se repentir, va se convertir. Jésus va dire, aujourd'hui le salut est entré dans ce monde. Parce que celui-ci aussi, en parlant de Zachée, est aussi fils d'Abraham. Et puis il dira, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme est venu. Voyez, on nous décrit ici le but de sa venue. Christ n'est pas venu pour faire de nous d'abord des millionnaires. Il n'est pas venu pour que nous ayons d'abord le mariage. Il n'est pas venu pour que nous puissions avoir d'abord tout ce que nous pouvons désirer. Ces choses viennent après. Mais il est venu pour d'abord chercher et ensuite sauver. Donc, voici les deux mots que vous pouvez noter qui caractérisent les gagneurs d'âme. Les gagneurs d'âme, ils viennent pour chercher. C'est-à-dire, tu dois entrer dans la ligne des gens qui cherchent les âmes en vue de les sauver. Amen. C'est clair? On a vu qu'un gagneur d'âmes, c'est un pêcheur d'hommes. Et comme Jésus, il cherche et il sauve. Je dois chercher et je dois sauver. C'est ça, un gagneur. Et le plus grand gagneur d'âme que l'humanité n'ait jamais connu, c'est Christ, Jésus. Il lui a fallu simplement 3 ans et demi pour bouleverser le monde. Il lui a fallu seulement 3 ans et demi pour former une équipe de 12 apôtres. Et nous sommes tous les résultats. Tous les chrétiens du monde entier, aussi bien en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique et partout,
Nous sommes le résultat du travail que eux ont fourni pour que nous puissions avoir accès au salut. Alléluia. Alléluia. Et ma prière ce soir et dans la suite des temps, c'est que Dieu fasse de cette église, que Dieu fasse de chaque chrétien dans ce temps qui sont les derniers, des gagneurs d'âmes. Alléluia. Il faut que la vision des choses change. Il faut que ton objectif change. Alléluia. Je dois être un gagneur d'âme. Dis avec moi, je dois être un gagneur d'âme. Dis encore, je dois être un gagneur d'âme. Alors, première chose que tu dois faire, commence à chercher qui sont dans ta famille, dans ton entourage qui ne connaissent pas Dieu. Cherche-les. Écris leur nom sur une feuille. Et tout à l'heure, je vous donnerai la stratégie. Une fois que vous le cherchez, vous le repérez, commencez à prier. Quand je regarde mon immeuble, beaucoup ne sont pas sauvés. Quand je regarde mon quartier, beaucoup ne sont pas sauvés. Quand je regarde ma ville, beaucoup ne sont pas sauvés. Et quand même, je vais faire tout à l'heure, on va faire des statistiques, on va voir que vous et moi, nous sommes des paresseux spirituels. Et ça doit changer. Puisque nous parlons de la transformation spirituelle, il faut que les choses changent aussi. Alléluia. Alléluia. Dieu veut des gens, des hommes et des femmes passionnés, qui ont la passion des âmes. Parce que ce que l'argent ne peut pas faire, le nom de Jésus peut faire. Alléluia. Ce que le matériel ne peut apporter, Jésus seul peut apporter. Et tu n'as pas besoin d'avoir l'argent pour sauver, pour être gagnant d'âme. Tu n'as pas d'abord besoin d'argent. Tu n'as pas d'abord besoin d'une organisation, d'un système. Tu as d'abord besoin d'avoir le cœur pour gagner des âmes. Tu dois avoir la passion pour gagner des âmes parce que c'était le cœur de Jésus. Donc un chrétien qui n'a pas le cœur pour gagner les autres âmes n'a pas le cœur de Jésus. Parce que le cœur de Jésus bat les âmes. La Bible dit quoi dans Jean chapitre 3 verset 16? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique Jésus afin que celui-là même qui croit en lui ne périsse point mais qu'il soit sauvé. Pourquoi Jésus est venu? Pour sauver. Alléluia. Et la Bible dit dans 1 Pierre, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or, par de l'argent que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre, hérité de nos pères, mais par le sang précieux d'un agneau sans défaut. Ce sang, tu l'as, le sang de Jésus, tu as cru à cette œuvre de la croix qui te rend capable de pouvoir aussi prêcher cet évangile à qui? À toi aussi, à qui on a prêché? Hier, on t'a prêché pour que tu sois là aujourd'hui. Que fais-tu pour que les autres viennent au Seigneur, à la foi, à l'évangile, surtout dans le royaume de Dieu et dans l'église? C'est ta responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité des prédicateurs, mais c'est la responsabilité de tout chrétien. Amen. Cherchez et sauvez. Répète avec moi, cherchez. Encore cherchez et sauvez. Dis, c'est ma responsabilité. Alléluia. Le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et voici comment Jésus, lorsqu'il a vu Pierre, Pierre était en train de pêcher, c'était son entreprise. Il était dans la barque. Après avoir passé toute la nuit, nous dit Luc chapitre 5, il n'a rien eu. Et le matin, Christ se monte sur la barque, il dit avance en pleine eau. Et pendant qu'ils avançaient en pleine eau, ils ont dit Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Le problème, c'est que tu peux travailler, mais sans Dieu, tu n'auras rien. Mais lorsque tu travailles avec Dieu, tu as des résultats. Et Paul dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Bien-aimés, c'est le temps de ne plus travailler seul. Ce n'est plus le temps de travailler avec ses compétences, ses acquis, ses talents. C'est le temps d'associer Dieu dans ce que nous faisons. Alléluia. Car la Bible déclare, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Lorsque Dieu s'invite dans notre barque, lorsque Dieu s'invite dans ta vie, lorsque Dieu s'invite dans ta famille, lorsque Dieu s'invite dans ton ministère, les choses vont changer. Lorsque tu vas obéir, à chaque fois que tu obéiras, tu verras des fruits. Et c'est ce qu'il a fait. Travailler toute la nuit, rien eu. Mais lorsqu'il a obéi, il est parti. Il a jeté le filet. Oh, dis avec moi, Seigneur, aide-moi à jeter le filet. Oh, dis avec moi, je veux jeter mon filet. Et lorsque tu vas jeter ton filet, parce que tu es conduit par le Saint-Esprit, sache qu'il va y avoir des poissons. Et dans la Bible, les poissons représentent les âmes, les hommes. Les brebis représentent les âmes. Les poissons aussi dans la Bible, c'est une image, représentent également les hommes. Le même Pierre qui était pêcheur de poissons, Christ a fait de lui pêcheur d'hommes. Et vous verrez dans Actes chapitre 3, lorsqu'il a ouvert la bouche pour parler, pour apporter la prédication, la Bible dit qu'il y eut plus de 3000 âmes qui ont été sauvées. Oh my God! C'est-à-dire une seule prédication de Pierre, on ne sait même pas où est-ce qu'on va mettre les âmes ici. Ah, où sont les pierres de cette génération? Je dis, où sont les pierres? Où sont les pierrettes? Où sont les pierrettes? Où sont les pierres? Où sont les pierres? Où sont les pierres? Tu dois être pierre. Oh, si tu es une sœur, tu dois être pierrette. Je n'ai pas de l'onction. Ce n'est pas parce que tu t'appelles pierrette que tu as forcément. Amen. Vous vous imaginez? Et je dis à Dieu, moi je veux vivre ça. Ah, tu ne me crois pas. Je dis à Dieu, je dois vivre. C'est-à-dire, une seule prédication, il faut qu'il y ait plus de toi. Si la Bible nous donne des chiffres, c'est que Dieu compte aussi. Dieu est dans le nombre. 12 apôtres, 70 disciples, 120 disciples à la chambre haute. 3000 âmes, 5000 âmes. La Bible compte et compte depuis que tu es converti. Combien as-tu gagné? Et quand je compte, je n'ai pas encore 3000. J'ai dit, il y a un problème. J'ai dit, il y a un problème. Dis avec moi, j'ai un problème. C'est pour dire la vérité. Là, je me parle à moi-même. Je n'ai pas encore atteint ça. Et c'est anormal. Et je veux mettre tous les moyens possibles. Et je vous dis, je veux mettre tous les moyens. Je veux prier, je veux jeûner, je veux mettre l'argent. Parce qu'il faut que ça, cette parole s'accomplisse. Parce que ce n'est pas écrit seulement pour Pierre, c'est écrit pour toi et pour moi. Et la Bible dit, la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Nous sommes la dernière maison. Pourquoi nous ne voyons pas cette gloire? C'est que quelque part, on ne fait pas comme eux. On n'est pas consacré. Dieu te bénisse. Un problème de consécration. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Chacun pense à son ventre. Chacun pense à son salaire. On n'a plus la passion des âmes. On donne une image qu'on pense aux âmes. Non. On n'est pas prêt à se sacrifier. On n'est pas prêt à mourir. Mais les premiers chrétiens étaient prêts à mourir. Prêts à tout abandonner pour que la mission soit accomplie. Car ils savaient qu'ils étaient voyageurs et étrangers sur la terre. Mais le problème aujourd'hui, on a oublié cette notion de voyage, de pèlerin. Nous pensons que nous sommes éternels. Voilà pourquoi nous n'avons plus la passion des âmes. Voilà pourquoi les âmes ne nous intéressent pas. La preuve, nous ne prions pas suffisamment pour les âmes. La preuve, nous ne sortons pas évangéliser. Nous nous contentons des réunions de l'église. Dis Seigneur, pardonne-moi. Dis Seigneur, pardonne-moi. Pêcheur d'hommes, un gagneur d'hommes est un prédicateur. Est un prédicateur. Laissez-moi vous dire, dans la Bible, tout chrétien est appelé à prêcher. Touche ton voisin, dis-lui, tu es appelé à prêcher. Tu ne l'as pas bien dit, hein? Tu n'as pas bien écouté. Dis-lui, tu es appelé à prêcher. L'enseignement est réservé aux cinq ministères. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Eux sont établis par Dieu pour enseigner les chrétiens. Mais la prédication, c'est une affaire de tous. Matthieu chapitre 28. Matthieu 28, versets 18 à 20. Puis il va leur dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel comme sur la terre. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Toutes les nations. Toutes les nations. Nous sommes en France, nous devons faire des Français les disciples de Jésus. Tous ceux qui habitent ce pays, on doit faire d'eux des disciples de Jésus. Et il est anormal d'avoir juste une ethnie dans un pays où il y a plusieurs races. dans la foi, anormal, et nous devons nous révolutionner et changer de stratégie. Alléluia. Marc chapitre 16, verset 15. Marc 15, 16, verset 15. Puis il leur parla de nouveau en disant, allez par tout le monde. Jésus dit, allez par tout le monde. Notez bien ces références. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Tu dois prêcher. Dieu n'a pas d'autre bouche que ta bouche. Après avoir prié, lorsque tu sors, prêche. Après avoir reçu la parole, dans ton milieu, dans ton travail, à l'école, dans ton environnement, ouvre ta bouche, prêche. Parle de Jésus, car ces personnes ne viendront pas s'ils n'entendent pas. Et nous devons utiliser tous les moyens possibles aujourd'hui pour faire entendre le message de l'évangile, le message du salut. Alors, quelle question se pose? Qui peut être gagneur d'âme? Un, le gagneur d'âme, c'est tous les chrétiens. Tous les chrétiens. Les disciples de Jésus sont des gagnants d'âme. Deux, tous les ministres de Dieu, quand je parle de ministres, je parle de cinq ministères d'Éphésiens 4, les ministères de la parole, ils sont appelés à gagner les âmes. Et il est anormal qu'un pasteur dise que non, gagner des âmes, c'est pour vous. Vous allez dans les trains, dans les métros, vous faites le travail et eux, ils sont assis dans les bureaux bien climatisés, mangeant matin, midi, soir. Et puis, ils disent, alléluia, le royaume de Dieu. Nous devons suivre le pas du maître, Christ. Amen. C'est pourquoi j'aime pas trop le bureau. C'est bien, mais c'est pas bien. Ça fait de toi après un patron. Nous ne sommes pas des patrons, nous sommes des ouvriers dans le royaume. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous ne sommes pas des patrons, nous sommes des ouvriers et nous devons être sur le terrain, dans le sang, pour annoncer l'évangile au maximum d'âmes. Alléluia. Tous les apôtres sont des gagneurs d'âmes. Tous les prophètes sont des gagneurs d'âmes. Tous les évangélistes sont des gagneurs d'âmes. Tous les pasteurs sont des gagneurs d'âmes. Et tous les docteurs de la parole sont également les gagneurs d'âme. Amen. Et je crois que le temps arrive où nous devons tous prendre nos filets, l'image de nos ministères, et le jeter dans la mer. La mer, l'image du monde, et de gagner le maximum de poissons, les âmes. Car il y a deux catégories. Il y en a un qui croit, mais qui ont été refroidis, qui doivent être regagnés à Christ. Il y en a qui ont cru, il y en a qui ont été déçus, il y en a qui sont dans les maisons, qui ne vont nulle part et qui ont commencé à perdre l'intimité avec Dieu qu'on doit gagner et tu dois les chercher dans ton entourage. Cherche-les à partir d'aujourd'hui. Et deuxièmement, les païens qui n'ont jamais été éclairés, nous devons aussi les cibler. Amen. Amen. Alors, quelles sont les caractéristiques des gagneurs d'âme? Je disais qui était un gagneur d'âme, je disais c'était tout chrétien et c'est tout ministre de Dieu. Vous notez Matthieu 28, 19. Notez également Romains chapitre 1, verset 5. Romains 1, 5, Paul dit, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener à l'obéissance de la foi tous les païens. La grâce que Dieu nous donne ne fait pas de nous des hommes populaires, n'est pas censée de faire de nous des hommes, je dirais, riches au sens financier. Mais la grâce, c'est pour amener le maximum d'âmes à Christ dans le royaume. La véritable richesse d'un ministère, ce ne sont pas d'abord le compte en banque rempli, mais la véritable richesse, c'est les âmes qui sont gagnées. Et ça doit, la tendance doit changer. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Romains 1, 5. Romains 1, 5. Nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Aujourd'hui, quand je vois certains jeunes ministères, ils veulent rentrer dans le ministère. Ce n'est pas pour gagner les âmes, mais c'est pour être connu, pour être vu, pour voyager dans le monde. Et on dit, c'est ça le ministère. Ce n'est pas ça le ministère. Le véritable ministère, c'est les multitudes d'âmes qui sont gagnées, transformées par l'évangile, qui est la puissance de Dieu. Alléluia. Et Paul dira dans Romains 1, 12, le verset 16, car je ne point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quelles sont les conditions pour être un gagneur d'âme? Notez rapidement. Sur le plan spirituel, pour être un gagneur d'âme, il faut d'abord soi-même être sauvé. Il faut être converti. Je parle ici de la conversion, qui est différente de la repentance. La repentance, c'est le fait de changer de mentalité. Et la conversion va plus loin. Après avoir changé de mentalité, on se détourne du mauvais chemin. Ça, c'est la conversion. Or, il s'avère qu'aujourd'hui, nous avons un faible taux de chrétiens convertis. Nous avons des gens qui adhèrent dans des mouvements, mais qui ne sont pas convertis. Qui sont encore dans la loi, dans la religion, dans le monde païen, mais à l'église. La conversion est une condition pour être un gagneur d'âme. Être né de nouveau. Dans Jean 3, Jésus parle de la nouvelle naissance. Et Paul le dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Et pour être gagneur d'âme, dans les conditions spirituelles, il y a aussi le fait de marcher dans la sanctification. On nous a parlé tout à l'heure de la consécration. La sanctification, le fait de se mettre à part, être mis à part pour Dieu, fuir l'impureté, fuir le mensonge, fuir la duplicité, la fraude, fuir tout ce qui est corruption, tout ce qui est méchanceté, tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu, le péché au sens large. Une autre condition pour être un gagneur d'âme, il faut avoir un bon témoignage. Dis avec moi un bon témoignage. Et beaucoup, nous avons un bon témoignage à l'église. Mais lorsque nous allons dans nos familles, dans notre entourage, le témoignage n'est pas du tout bon. Et lorsque tu te dis gagneur d'âme et que tu n'as pas un bon témoignage, le mauvais témoignage devient un frein pour que les âmes soient sauvées. Vous imaginez, vous voulez amener les âmes au Seigneur et on vous retrouve faire comme l'ex-premier ministre français. Le témoignage est gâché. Est-ce que vous avez compris? Tel est le témoignage que tu portes, que tu as. Et le mauvais témoignage devient un frein pour être un gagneur d'âme. Et en termes de témoignage, dans 1 Corinthiens 4, verset 9, Paul nous dit, nous sommes en spectacle. C'est-à-dire, nous sommes observés. Lorsque tu vas prêcher l'évangile, sache que les gens te regardent de près. Et lorsque tu deviens un homme public, parce que tout le monde te regarde. La moindre erreur, ça sera dramatisé parce que tu es tout simplement public. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Nous sommes en spectacle aux anges. Devant les anges, devant le monde et devant Dieu. Est-ce que Dieu peut témoigner de toi? Est-ce que les hommes peuvent témoigner de toi? Est-ce que l'Église peut témoigner de toi? Est-ce que même les païens peuvent témoigner de toi? Paul, en parlant des anciens, il dira, avant d'établir les anciens, les diacres, ils doivent recevoir un bon témoignage de ceux du dehors. Même les païens peuvent témoigner. Comment est-ce que tu te comportes au travail? Comment est-ce que tu te comportes dans ta famille, devant tes parents, devant je ne sais pas, ton environnement, tes amis? Quelquefois, notre mauvais témoignage devient un frein pour être un gagneur d'âme efficace. Alléluia. Actes chapitre 2, verset 47. Vous notez la référence. Et Romains 8, verset 16. Actes 2, 47. Et Romains chapitre 8, le verset 16. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons besoin du témoignage du Saint-Esprit, mais aussi du témoignage des autres. Une autre condition pour être un gagneur d'âme, il faut avoir une vie de renoncement. Un gagneur d'âme ne pense pas à sa vie. Jésus dit, quiconque voudra sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de mon royaume, la retrouvera. Lorsqu'on est un gagnant d'âme, on s'oublie. On oublie même qu'on est marié. On oublie même qu'on a des engagements. Parce que notre objectif, c'est les âmes qui doivent être sauvées. Dieu ne néglige pas le reste. Mais la priorité, c'est d'abord les âmes, le royaume de Dieu, les âmes qui doivent être sauvées. Lorsque Dieu te bénit financièrement, ta priorité doit être le salut des âmes. Est-ce que mon argent contribue-t-il à l'épanouissement de l'évangile? Est-ce que mon argent, mes biens, contribue à l'expansion du royaume de Dieu sur la terre? Ça, c'est les questions qu'il faudrait se poser lorsqu'on est gagneur d'âmes. Et Paul dira même, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Et nous pouvons prêcher de plusieurs manières. Tu peux être ici, financer une œuvre, et ton argent peut gagner des âmes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez comment est-ce que la plupart des ministères, notamment américains, fonctionnent? Si Dieu a béni un ministère et qu'il n'a pas la grâce qu'un autre ministère a, lui, il peut prendre des millions, il investit dans son ministère. Vous avez par exemple un ministère très connu, Kenneth Copeland, qui est un Américain. À chaque fois que, à l'époque, l'évangéliste Reinhard Bonnke devait organiser des grandes réunions d'évangélisation, en Afrique notamment, et organiser une réunion où il va y avoir plus de 1000 conversions ou de 10 000 conversions, ça coûte des millions et des millions. Ce n'est pas 1000 euros, ce n'est pas 10 000, 100 000, c'est des millions. Et lui vient, comme Dieu l'a béni, il prend son argent, il dit j'investis. Et quand il a investi comme ça, Reinhard Bonnke n'a pas l'argent, mais lui il a l'onction pour prêcher. Et quand lui part et il prêche, les âmes qui sont gagnées, Dieu pense et à Reinhard Bonnke et à Kenneth Copeland. C'est-à-dire ton argent peut financer le salut des âmes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans Luc chapitre 8, regardez. Lisez avec moi ce texte. Ça confirme ce que je suis en train de dire. Luc chapitre 8. On nous parle ici de Christ. Luc 8, 1 à 3. La Bible dit, ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avait été guéri des esprits impurs et des maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chusa, intendante d'Hérode, et Suzanne, regardez, et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Ils assistaient Jésus de leur bien pour que Jésus et son équipe aillent de ville en ville, gagner les âmes, arracher les âmes de la mort. Avec leur bien. Alléluia. Alléluia. Elles ne pouvaient pas aller. Mais leur bien, leur bénédiction a contribué, je dirais, à l'expansion de l'évangile. Elles ont été nommées parmi les femmes qui ont été des gagneurs d'âmes en ce temps-là. Et il y a besoin de libéralité. Si aujourd'hui personne ne donne, comment voulez-vous que cet évangile soit porté au monde? Ce n'est pas possible. Et si aujourd'hui il n'y a pas des hommes et des femmes consacrés, si aujourd'hui j'arrête de faire ce que je fais, qui va vous prêcher? Qui va vous enseigner? Donc chacun de nous a un rôle à jouer. Dis à ton ami, tu as un rôle à jouer. Alléluia. Même les enfants, vous avez des rôles à jouer. Car la Bible dit, dans les derniers temps, Dieu va répandre son esprit sur toute chair, même sur les enfants. Dans Psaume 3, il est dit, dans la bouche, par la bouche des enfants et des nourrissons, Dieu a fondé sa gloire pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Dieu parle même aux enfants. Dieu veut utiliser même les enfants. Et ma prière est que si les adultes ne comprennent pas, que Dieu suscite une génération d'enfants, ouais, bénis de Dieu. Alléluia. Tu vas voir ton petit bébé qui commence à prophétiser. Maman, répands-toi, tu es trop fainéante. Tu ne pries pas assez. Arrête de prier flash. Alléluia. Ton petit neveu que tu gardes deux fois là, il va commencer à prophétiser sur toi. Pourquoi? Parce que tu n'écoutes pas. Vous savez, je vais vous recommander un livre tout à l'heure. Lorsque le Seigneur, qui est l'image du roi, dans la parabole des noces de festin, était en train de préparer le festin des noces, il y a eu l'invitation qui a été lancée à tous les convives, c'est-à-dire à Israël. Mais il y a eu des excuses. Il y en a qui disaient, Seigneur, je viens d'acheter une paire de bœufs, je viens de commencer une nouvelle entreprise, je n'ai pas le temps. Seigneur, je viens de me marier, je n'ai pas le temps. C'est pourquoi vous qui vous mariez, vous pensez que le mariage c'est la fin du monde, vous vous détrompez. On se marie pour atteindre le but de Dieu. C'est pas, je suis marié, oui, et alors la vie continue. Alléluia. Avant toi, après toi, il y aura des gens qui vont se marier. Non, Seigneur, tu vois, je fais des affaires, mais non, je n'ai plus le temps. Que des excuses pour ne pas répondre à l'appel de Dieu, alors que les âmes meurent. Et Dieu va dire à ses serviteurs, allez dans les rues, allez prendre les boiteux, les extropiés, contraignez-les d'entrer dans la maison, afin que ma maison soit remplie. Quand je lisais encore ce livre, je dis, Seigneur, aide-moi encore à contraindre les gens dans ce temps. Je réalise qu'il n'y a plus le temps est parti. Et je ne veux plus perdre mon temps avec des gens qui donnent des excuses. C'est pourquoi je sélectionne même les gens qui vont être autour de moi. Je les sélectionne parce qu'il y en a qui peuvent devenir des boulets, des freins pour la conversion des autres. Il faut savoir ce que tu veux avec Dieu. Alléluia. Alléluia. La libéralité. Un cœur facile. Un cœur simple. Un cœur qui n'a pas de contraintes. Qui est capable de libérer ce qu'il a pour que les multitudes soient sauvées. Une autre condition spirituelle. Je dirais pour être un gagneur d'âme, il faut avoir la joie. Vous imaginez, vous parlez de l'évangile de joie. Parce que l'évangile nous parle du royaume. Et le royaume, c'est la joie. Et vous-même, vous êtes triste. Jésus vous aime. Ça va? Oh. Un évangile de paix. Ma paix ne dépend pas de ma condition. Ma paix vient du Saint-Esprit. Que j'ai à manger ou pas, le Saint-Esprit en moi. Et il me donne la paix. Et la paix, la joie de Dieu, c'est ça notre force. Au milieu d'un monde en pleine dépression, un monde perdu, un monde dans l'angoisse. Ce monde a besoin des hommes. Je veux te dire, ce monde a besoin de toi. Tes collègues ont besoin de toi. Tu dois leur parler de l'évangile. Alléluia. Qui veut être gagnant d'âme? Il faut être respectueux, être poli. C'est important. La politesse, le respect. Être patient. Pourquoi? Car il y a des âmes que tu veux leur prêcher aujourd'hui. Pendant un an, ils refuseront d'écouter. Mais si tu n'as pas la patience, Jésus a été patient envers nous. Peut-être, souviens-toi, tu as peut-être oublié combien de fois on t'avait prêché, tu refusais. Jusqu'à ce qu'un jour, tu as cru. Dieu a pris patience avec toi. Crois aussi qu'il prendra patience avec les autres. C'est pourquoi continue, invite-le, il refuse, invite-le encore. Séminaire, invite-le. Ne te fatigue, invite-le. Dis à ton avis, invite-le, invite-la. Invite-le, invite-la. Invite. Contrains-le de venir, tu dois venir. Alléluia. Et avant de l'inviter, tu es sûr d'abord que tu sors de la chambre haute. L'ambrakamashaka, je lis sa volonté à Christ. Alléluia. Oh, ses pensées, je le. La Bible dit, tu as reçu la grâce et l'apostolat pour amener à la foi les païens. Et tu es trop dangereux, tu te minimises et tu te négliges. Voilà pourquoi ta prédication n'a pas d'impact. Moi, je refuse de prêcher sans impact. Ah non, come on. Alléluia. Je vais vous donner un peu de témoignage, ça va vous fortifier. Amen. Nous allons chercher. Dis avec moi, nous allons chercher. J'avais deux, trois personnes m'ont prophétisé. J'ai dit, mais parce que Dieu nous a dit, cette année tu vas atteindre 1000 membres. J'ai dit, oh, nous on prie seulement pour 600. Et même on va les mettre où? Je commence à dire, mais ça c'est des bons problèmes. Je préfère qu'on soit 1000 et qu'on ait vraiment un problème. Ça veut dire que soit on casse ici, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire, mais soit on déménage. Tu ne dis pas amen. Hein? Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Tu dois être un gagnant d'âme. Et je dis, ouais, quand Dieu parle comme ça, je dis, ça c'est bon. Amen. Une autre caractéristique importante que vous devez noter, un gagnant d'âme a la passion des âmes. Tu dois demander la passion des âmes, c'est-à-dire l'amour pour les âmes perdues, la passion des âmes. La passion des âmes qui ne connaissent pas Dieu. C'est pourquoi je disais au début, fais la liste des gens déjà dans ta famille, dans ton entourage, des gens que toi tu connais. Combien de gens tu connais? Je suis sûr que tu connais au moins 10 personnes. Au moins. Si ce n'est plus. Est-ce que les 10 que tu connais connaissent tous Jésus? Est-ce que les 10 que tu connais fréquentent-elles ces personnes, les églises, une église locale? Donc tu as une responsabilité de les contraindre, pas par la force, mais par la puissance du Saint-Esprit. Amen. La passion des âmes. Fais le statistique. Et quand j'essaie de faire un peu les statistiques, je remarque même qu'ici, nous qui sommes ici à Villeneuve-le-Roi, nous avons très peu de gens de Villeneuve-le-Roi qui sont sauvés. Combien de gens de Villeneuve-le-Roi viennent ici? Très peu. Alors là, c'est Melun. Vous voyez Melun, les Melun jusqu'ici. Il y en a, je ne sais pas où là. Regarde toi, tu habites Saint-Geneviève-de-Bois, là-bas au fond, Créteil. Là, il y en a qui viennent de Creil. Ah! Pontoise, merci Jésus. Je ne suis pas contre ça. Mais là où nous sommes, on n'a pas encore fait. On n'a rien fait. Dis à ton ami, nous sommes des paresseux. Non, dis-lui, nous sommes des paresseux. Et nous nous repentons aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la repentance. Aujourd'hui, commence par moi. Je me repens aujourd'hui. Alléluia. Maintenant, là où tu es aussi, ta ville là, tu dois commencer à la réclamer à Jésus. Vigneux là, tu la réclames à Jésus. Là où tu habites, Limay, tu réclames. Il faut que les âmes soient sauvées là-bas. Là où tu habites là, tu dois commencer à réclamer. Ton pays d'origine, commence à réclamer. Tu es du Cameroun, réclame le Cameroun. Tu es de la Martinique, réclame. Tu es du Congo, réclame. Tu es de la Chine, réclame. Merci Jésus parce que nous partons en Chine. Nous allons presser Jésus en chinois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non frère, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je suis en train de te montrer que nous ne travaillons pas comme Dieu veut. La Bible dit ceci, c'est vrai. Tout le monde ne sera pas sauvé. Ça c'est vrai. C'est une évidence. Le monde, dans le monde, nous sommes près de 7 milliards. Combien nous avons-nous déjà gagné? Toutes les églises réunies, combien nous avons déjà gagné? Très peu. Et la Bible dit, parmi les hommes, la Bible compare les hommes, enfin les hommes vers qui nous prêchons l'évangile au terrain. Il y a une semence qui tombe le long du chemin, n'est-ce pas? L'autre tombe dans les endroits pierreux. L'autre, sur les épines. Et l'autre, dans la bonne terre. Ok. Imaginons un peu. Ici, nous sommes 10 000. Dans la ville, par exemple, ici, il y a 10 000. La bonne terre correspond à un quart, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord. Sur les quatre terrains, un terrain, ça fait un quart. D'accord? Et s'il y a 10 000 personnes ici à Villeneuve-le-Roi, combien nous sommes censés gagner ici dans cette ville? Non, le calcul est simple. La Bible dit une partie tombe dans la bonne terre. D'accord? Ok. Non. 7500, on peut considérer ça. Mais la bonne terre correspond au minimum à 2500. Mais ici, il y a plus que 10 000. Est-ce qu'il y a 2500 dans toutes les églises réunies ici qui viennent de cette ville? Non. Nous ne faisons pas le travail correctement. Et nous devons changer de stratégie. Et je suis un peu sidéré. J'ai demandé à ce que tous les responsables soient là. Il y en a qui ne sont pas venus. Je dois voir pourquoi. Ça, c'est le message que tout le monde doit entendre au lieu d'être excité, que nous travaillons vraiment selon le plan et la pensée de Dieu. Sinon, on s'éparpille à gauche, à droite, aucun résultat efficace, aucun. C'est une perte de temps, perte d'énergie, perte d'onction. Et Dieu n'est pas glorifié. Nous devons être des gagnants d'âmes, Et quand Jésus a donné son plan, il a dit quoi? Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, il dit quoi dans Actes 1, 8? Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez témoin où? D'abord les extrémités. Où? À Jérusalem. À Jérusalem, c'est là où ils étaient. Tu dois commencer à Jérusalem. Avant d'aller dans la Samarie, dans la Judée, c'est à Jérusalem. Dis à ton ami, c'est à Jérusalem d'abord qu'on commence. Jérusalem, c'est ton quartier. Notre Jérusalem en tant qu'église, c'est cette ville. C'est pourquoi toute l'évangélisation, nous allons nous concentrer d'abord ici et travailler et après évaluer notre travail. Amen. Amen, amen, amen. Ça va? Je ne suis pas trop dur, ça va? Dis gagneur d'âme. Dis avec moi gagneur d'âme. Après, non, je suis évangéliste interplanétaire. Avant d'être dans toutes les planètes, comment déjà dans ton quartier? Dans ton quartier, on ne te connaît même pas. Dans ta vie, tu n'es même pas connu. Tu te vois déjà un grand bishop. Arrêtons avec ça. Pourquoi? Parce qu'il y a les réseaux sociaux. Et je ne crois pas à ça, moi. Nous devons suivre et obéir à la voix du Saint-Esprit. Sinon, nous n'aurons pas d'impact. Ça va être du feu de paille. On a l'impression, après, il n'y a rien. Le concret. Et nous devons être concrets avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Ça va, tout le monde me suit jusque-là? Dis, je veux gagner des âmes. Dis, je veux gagner des âmes. Alors, comment gagner des âmes? Un, pour gagner des âmes, demande tous les jours à Dieu cette soif de gagner des âmes. Ça, c'est la première condition. Demande à Dieu cette soif. Seigneur, donne-moi gagner des âmes. Donne-moi gagner. Parce que plus tu prieras pour ça, plus quand les occasions se présenteront, tu feras que tu amènes ces âmes à Christ et à l'Église. Ça, c'est la première condition. Priez pour ça. Demandez à Dieu l'amour pour les âmes. L'amour pour les âmes perdues. Deuxièmement, tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois connaître la parole de Dieu. C'est pourquoi je te bénis parce que tu viens dans le kit de semaine. C'est ici, dans le mardi, le vendredi, qu'on connaît, qu'on apprend les choses profonde et sérieuse. Il faut te faire violence, ne pas manquer. Amen. Parce que ça tu apprends, tu vas en profondeur, tu t'enracines, tu médites, tu étudies et tu arrives à lire et à comprendre des choses. Car c'est la parole qui est la base et cette semence que lorsque tu vas jeter, elle va produire des fruits et les âmes seront gagnées à Christ. Amen. Troisièmement, si on veut être des gagneurs d'âmes, il ne faut jamais s'arrêter d'inviter les gens. Inviter les gens à recevoir Jésus et à les inviter à l'église. Depuis quelque temps, le Seigneur m'a beaucoup repris. Il m'a dit, nous prêchons, mais nous ne demandons pas aux gens qui sont ceux qui veulent accepter Jésus. Il y en a qui viennent, mais ils sont encore des religieux. Ils ont besoin d'avoir une relation personnelle avec Jésus. Et dans tous les cultes, nous devons le faire maintenant. Et que ce soit dans la semaine, inviter les gens à recevoir Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Si vous connaissez des gens qui sont dans les maisons, qui ne prient plus, invitez-les à l'église. C'est ta responsabilité. Quatrièmement, ces personnes que vous invitez, vous devez garder un contact permanent avec ces personnes. C'est-à-dire, vous devenez leur père ou leur mère spirituelle. En quelque sorte. Donc lorsque tu gagnes une âme et que l'âme ne vient plus, c'est ta responsabilité. Dieu va te demander des comptes. Garder un contact permanent. En d'autres termes, faire le suivi. Faire le suivi. Lorsque nous donnons naissance aux enfants, nous devons entourer ces enfants, les chérir, les protéger jusqu'à ce qu'ils grandissent et qu'ils deviennent matures. Nous donnons naissance et nous abandonnons. Nous sommes comme les mères qui après avoir accouché, abandonnent les enfants. Les âmes que tu as menées au Seigneur, tu les abandonnes. Alléluia. Qui se reconnaît dans ça? Je sais qu'on est nombreux. On est nombreux. Alléluia. Le suivi. Dans le suivi, pour faire un bon suivi, il faudrait que les personnes que vous amenez, que vous invitez, que vous priez pour elles. Parce que sans la prière, le diable va les attaquer et peut leur faire fuir de la présence de Dieu. Car n'oubliez pas que le diable n'aime pas la présence de Dieu et il peut attaquer une personne de toutes les manières pour l'empêcher de venir dans la présence de Dieu. Il va jamais t'empêcher de manger. Il va jamais t'empêcher d'aller au travail. Mais il va t'empêcher de prier et de faire l'œuvre de Dieu. Oui ou non? Oui ou non? Avez-vous déjà vu quelqu'un dire, je suis trop attaqué, mais je ne pars pas au travail? Il va aller quand même au travail. Ah non, je suis trop attaqué, bon, je ne mange pas. Il va manger, mais il est trop attaqué, il ne va pas prier. Il est trop attaqué, il ne va pas venir à l'église. Vrai ou faux? Pourquoi? Parce que le diable sait les trésors qu'il y a derrière. Est-ce que vous comprenez un peu? Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et pour qu'un lion dévore, il doit d'abord écarter la brebis, écarter l'animal qui est comme cible. Et toi, tu dois comprendre ça. Commence à prier. Les âmes que tu invites, prie pour ces âmes. C'est ta responsabilité d'abord. C'est ça le suivi. Alléluia. Deuxièmement, encourage la personne. Encourage, parce que des fois, elle peut passer par des moments difficiles. Il faut l'encourager. Soit derrière pour encourager, soit derrière. Ne te fatigue pas d'encourager. Ah, j'ai trop fait, je suis fatigué, n'écoute pas. Mais continue. La parole est une semence. Alléluia. Continue d'encourager. Appelle, envoie un texto, un verset biblique. Fais-le. Dieu t'aime. Amen. Et si tu sens que tu es limité, allez, envoie-le chez le pasteur. Thérapie spirituelle. Amen. Autre chose, visiter ces âmes. Il y a des âmes qui ne viennent pas, mais tu ne les visites même pas. Tu ne sais même pas qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre comme difficulté. La visite, c'est très important. Et vous allez voir dans Actes, par exemple, Actes chapitre 8, la Bible nous parle du grand apôtre Pierre qui visitait les brebis. Actes chapitre 8. Plutôt Acte 9, verset 32. La Bible dit, comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde. Bien-aimé, la visite, c'est important. Aller rendre visite aux autres, aux gens qui sont peut-être découragés, qui sont abattus. Ça fortifie leur foi. Et on a laissé ça à qui? Au pasteur. Alors que nous sommes tous des gagnants d'âmes. Lorsqu'il y a des âmes qui venaient et tu ne les vois plus, est-ce que tu as fait le pas pour aller les rendre visite? Quand tu as les temps libres, est-ce que tu les calcules? Est-ce que tu les programmes? Quand c'est dans ton programme, quand tu veux quelque chose, tu trouveras les moyens de le faire. Le problème, c'est que ce n'est plus un fardeau. Voilà pourquoi on ne le fait pas. On est préoccupé par autre chose que les priorités du royaume de Dieu. Alléluia. Est-ce que tout le monde me suit? Jeûner. Autre chose qu'il faut faire, jeûner. Jeûner. Est-ce que tu jeûnes pour les âmes? Toi, tu jeûnes que quand tu as des problèmes. Ah, parce que j'ai des problèmes, je jeûne. Ça, c'est des jeûnes égoïstes. Les véritables jeûnes, c'est lorsque tu oublies ta vie et tu penses aux autres. Amen. Quelquefois c'est dur, mais tu jeûnes, tu dis, Seigneur, je prie. Comme là, Dieu m'a dit, tu dois rester longtemps en jeûne. Je dois prier pour des multitudes que Dieu me montre en esprit. Et il me donne des stratégies, fais ça, fais ça, fais ça. Quand, sans le jeûne, il n'y aura rien. Sans la prière, il n'y aura rien. Et il faut que l'église de ce temps se lève dans le jeûne et dans la prière. Autre chose, l'obéissance au Saint-Esprit. Si tu veux être un gagneur d'âme, tu dois développer l'obéissance. Pourquoi? Car quelquefois Dieu peut te pousser à prêcher devant des foules. Quelquefois c'est devant une seule personne. Jésus prêchait devant les foules, mais le même Jésus s'est retrouvé en face de la femme samaritaine. Une seule âme a de la valeur aux yeux de Dieu. Mais nous aujourd'hui, combien vous êtes dans votre église? Oh, 10, oh, je ne viens pas. Vous êtes combien? 500. Ah, ça c'est une bonne église, hein? Les pasteurs aujourd'hui, c'est ça. On répond aux invitations par rapport à la capacité, la taille de l'église. Là maintenant, nous, on commence à être un peu visible. Le nombre commence à augmenter. Il y en a qui me contactent. Maintenant, on veut venir prêcher. Quand on était petit, pourquoi vous ne m'appeliez pas? Alléluia. Bien-aimé, non. Le monde, il y a des âmes à gagner dehors. Et je refuse d'être un commandeur de chair. Ma chair, c'est dehors. Je ne peux jamais dire non, moi on me donne jamais la chair ici. Ah bon? Mais tu as la chair tout le temps et partout. Lève-toi dans le train, tu as une grande chair. Tu vas voir les gens qui sont assis là. Prêche-leur l'évangile. Chante la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? L'obéissance. Philippe a prêché devant des foules à Samarie. Après, Dieu le conduit devant une seule âme, l'unique éthiopien. Tu veux que Dieu t'utilise? Voici le secret. Et quand Dieu touche les âmes, dis-toi, ce n'est pas toi, c'est Dieu. Rends-lui grâce. Quelqu'un m'entend? Quand tu rentres chez toi, je te rends grâce parce que tu as touché ces âmes. Quand je vis ces trois personnes qui ont donné leur cœur, dimanche ici, j'ai dit, merci Seigneur, tu as touché trois âmes. Alléluia. La Bible dit, il y a de la fête, la joie au ciel, lorsqu'une seule âme se donne au Seigneur. Et on n'amène plus les âmes au Seigneur. Et ça, ça doit changer. Amen. Et pour finir, pour être des gagnants d'âmes, efficaces, on a besoin de la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Acte 1, verset 8. Bien-aimé, tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit et tu dois demander la puissance du Saint-Esprit. Car sans la puissance, sans le baptême, sans le feu, tu ne peux pas. Il y a des forteresses. Les cœurs des gens sont enveloppés par des voix d'incrédulité. Il y a besoin de la force spirituelle. Il y a besoin quelquefois des dons de l'esprit. C'est pourquoi tu dois demander à Dieu de te donner les dons, de t'équiper spirituellement. Ne sors pas comme ça sans avoir prié, sans avoir demandé l'équipement. Avant d'aller, prie. Alléluia. Seigneur, je vais voir mes amis, je vais leur parler de Jésus. Ne prends pas ça comme de l'aventure, car il y en a qui sont sous l'influence démoniaque. Prie d'abord et quand tu vas voir qu'il va avoir l'impact dans leur cœur. Amen, 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 amen. N'aie pas négligé cela. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui touche les cœurs. Ce ne sont pas tes paroles, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, si tu le négliges, comment est-ce que ces âmes peuvent-elles être gagnées? Donc, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit pour gagner ce cœur. La Bible dit que Pierre se levait le jour de la Pentecôte. Il a prêché, prêché. Ils eurent le cœur vivement touché. Or, c'est le Saint-Esprit, selon Jean 16, qui convainc le cœur de péché, de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que je suis Douglas. Dieu n'a rien à faire avec ça. C'est parce qu'il y a son esprit. Amen. Amen, 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 amen. Et ma prière est que beaucoup soient touchés, affectés. Et lorsque le Saint-Esprit vient, il enlève la honte. Car il y en a qui ne prêchent pas parce qu'ils ont honte, vrai ou faux. Tu sens que l'Esprit de Dieu te dit, lève-toi. Tu dis, ah, tous ces yeux qui me regardent. La honte. La honte. Lorsqu'on n'a pas l'Esprit, on a honte. Mais lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on a l'assurance. Pierre, quand il n'avait pas l'Esprit, on l'a repéré dans cette cour. On a dit, lui aussi, il était avec lui. Car son langage de trahison, il dit, non, 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 je ne le connais pas. Il avait honte. Mais le même Pierre qui avait honte, le même Simon, Dieu a transformé son nom. Il est devenu la pierre. Il est devenu le roc. Il est devenu une personne stable. La Bible dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Son esprit nous remplit de force et de puissance. Alléluia. Je dis son esprit nous remplit de force et de puissance. De force et de puissance. Les gagnants d'âmes ont la force de l'esprit et la puissance de l'esprit pour convaincre le cœur. Amen, 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 amen. Tu pourras prêcher peut-être une minute, mais son cœur sera touché. Une minute avec le Saint-Esprit vaut mieux que 30 minutes sans le Saint-Esprit. Alors demande la puissance de Dieu. Quand tu te lèves le matin, rentre dans la prière matinale. Avant d'aller au travail, Seigneur, aujourd'hui je dois gagner au moins une âme. Fais le bilan jusqu'à la fin de l'année. 20 âmes je dois gagner minimum. Moi je dis à Dieu, minimum 3000. Je dois vivre cette parole. Je dis, je dois vivre ça. Et je dis, mais Seigneur, on va faire comment? Dieu m'a dit, mais oui, mais toi je t'ai appelé pour toucher les gens au niveau des médias. Tu as une onction pour ça. Et partout tu passes, ça se confirme. Alors travaille là. Il dit, mais Seigneur, je n'ai pas de moyens. Il dit, tu n'as pas la foi. Ce n'est pas les moyens, c'est la foi. Car tout vient par la foi. Quelqu'un ici ne m'a pas compris. Et je bénis le Seigneur. Le lundi dernier, j'étais avec le frère Kader. J'étais en train de quitter la maison, venir ici à l'église. J'ai fini. Et une personne m'appelle depuis le Congo. Il dit, je suis le pasteur Osé. J'étais traduit lors de la conférence, plutôt de la croisade d'évangélisation que tu avais tenue dans un stade qu'on appelle le terrain d'Injili, où il y avait près de 5000 personnes. C'est moi qui fus ton traducteur. Aujourd'hui, tu avais prophétisé sur moi. Aujourd'hui, je suis devenu pasteur. Je tiens une extension de la borne dans un coin. Il dit, pasteur, tu n'as aucune idée. Les messages qui passent sur Béni TV, nous sommes bénis. Nous sommes enrichis. Nous sommes édifiés. Pasteur, n'arrête pas. Il m'a dit, pasteur, fais des affiches, envoie-les-moi. J'ai une équipe, je vais distribuer partout. Je dois faire la promotion. J'ai dit, come on, parce que j'ai commencé à me fatiguer. J'ai dit, Seigneur, je donne l'argent. C'est comme si rien n'avance. Dieu me dit, regarde, ouvre tes yeux. Il dit, Jésus dit à ses disciples, lève tes yeux, levez les yeux, regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Il dit, les champs sont là, les champs sont là. Je vous ai envoyé aller moissonner là où les autres ont semé. Tu es rentré dans leur travail. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. J'ai commencé à regarder à l'argent. J'ai commencé à regarder à mes limitations. Alors que je prêche un Dieu illimité. Et moi-même, je me limite. J'ai dit, non, c'est fini. Maintenant, j'attaque les médias. Car Dieu m'a donné cette grâce. Il m'a dit depuis près de 10 ans, tu seras et tes messages béniront les gens dans le monde entier. Et il y a quelques années, 5 ans de cela, il m'a montré le globe terrestre qui était tout en noir. C'est tout était dans les ténèbres. Et je voyais quelques rayons du soleil qui sortaient du ciel et qui pénétraient dans le globe. Et j'entendais la voix de Dieu qui me disait, Douglas, mon fils, va dans tout le monde entier, prêche mon retour imminent. Je reviens bientôt, pas de distraction. Il me l'a dit clairement. Je l'ai entendu, j'ai entendu sa voix. Et une fois, dans la vision, il m'a remis un marteau. Il me fait rentrer dans un cimetière. Il dit, je te donne l'autorité. Va, casse les tombes et réveille les morts. Casse les tombes et réveille les morts. Voici pourquoi on s'appelle la puissance de la résurrection. Je suis entré dans le cimetière. Je cassais les tombes et les morts sortaient. Je cassais les morts sortaient. Les morts, ce sont les gens qui n'ont pas Dieu, qui sont dans les catacombes, qui sont dans la religion. Et Dieu m'a dit, va, prêche-leur l'évangile. Je t'ai donné la puissance de la parole. Fils de l'homme, prophétise, parle. Et pendant qu'il parlait, il prophétisait. Dans l'esprit, il y a eu un mouvement. Frères et sœurs, Dieu veut que nous entrions dans cette dimension, dans une dimension prophétique, dans une dimension où nous allons appeler les âmes. Bien aimé, ça va se passer. Je le déclare et je le proclame. Il y a la grande moisson ici en France. Dieu va envoyer les nations à cette résurrection. Dieu va envoyer des multitudes d'hommes et de femmes, car nous allons les gagner. Dieu, au travers de son esprit, va utiliser les médias. C'est le Saint-Esprit qui fait, mais il va passer par les médias. Nous allons gagner ces âmes à Jésus. Alléluia, alléluia. Et il y a 2 jours, 3 jours de cela, un ami prophète m'appelle. Il dit, homme de Dieu, pas sur telle chaîne. Dieu m'a dit, il veut te donner plus de 1000 âmes cette année. J'ai dit, ah bon? Je tremblais quand il parlait. Il dit, va dans cette chaîne. J'ai dit, mais l'argent, il dit, ne sois pas incrédule. Je voulais encore commettre la même erreur. J'ai dit, je me réponds tout de suite. 3 jours après, plutôt, le lendemain, quelqu'un d'autre m'appelle. Il m'a dit, pasteur, Dieu t'attend dans ce niveau. J'ai dit, waouh, Dieu me parle. J'ai dit oui. Et aujourd'hui, je viens d'une chaîne de télé qui est très connue ici, qui passe même sur Free. Et le mois qui commence, nous commencerons à passer les messages ici. Je dis ici et dans le monde entier. Tu as raison d'acclamer. Hein? Je dis, tu as raison d'acclamer. Ici et dans le monde entier, nous allons le faire. Je le déclare, je le confesse, je le prophétise. L'argent va venir et j'appelle les millions. Si je suis appelé de Dieu, serviteur de Dieu, et qui marche selon la vision, l'appel de Dieu, où que l'argent est, je l'appelle au nom de Jésus. Ce travail sera fait, Christ sera glorifié, les âmes seront gagnées, les âmes seront délivrées, seront sauvées, rachetées, formées, les ministères seront élevés, formés, équipés, et des extensions vont naître dans toute la France, dans toute l'Europe et dans le monde entier. Je les déclare, j'appelle l'onction apostolique sur ce ministère, j'appelle une onction prophétique sur ce ministère, nous allons y arriver. Je dis ensemble, nous allons y arriver, ensemble nous allons gagner les âmes. Levez-vous avec moi, soyez derrière moi, ensemble avec le Saint-Esprit. Nous allons marcher de gloire en gloire, de progrès en progrès. Nous allons gagner du terrain. Nous allons conquérir. Je dis, les géants de la France vont tomber. Je les déclare, je le confesse. Les géants vont tomber. Les géants vont tomber. Les géants vont tomber. Je ne pars pas à Sabrekama. Les robots Shatarabakarabayadaba. Dieu n'a plus de temps à perdre. Si toi tu as de temps, Père, sache que Dieu n'a pas de temps. Sache que même le diable sait qu'il a très peu de temps. Alors, conduit par le Saint-Esprit, nous sommes comme le vent. Plus rien ne va nous arrêter. Levons nos mains. Dis Seigneur, fais de moi un gagnant d'âme. Élève ta voix. Là où tu es, commence à prier. Seigneur, fais de cette église une église de gagnants d'âme. Fais de ce ministère un ministère de gagnants d'âme. Fais de cette église une église de gagnants d'âme. Oui, Seigneur, tu as parlé au travers de tes serviteurs. Moi-même, tu m'as montré, il y a 2 semaines, le mercredi, pendant que je dormais dans le bureau, tu m'as montré des foules qui venaient, des foules innombrables que je ne pouvais compter, de toutes les nations, de toutes les langues. Je le crois et je le déclare, où qu'elles soient, je les appelle au nom de Jésus. Père, nous voulons aller sur cette chaîne. Je demande l'onction spéciale, une onction spéciale qui va accompagner chaque message. Chaque message soit accompagné d'une onction spéciale. Je te le demande, Seigneur. Je te le demande, Seigneur. Chaque message soit accompagné d'une onction spéciale, d'une onction spéciale, d'une onction spéciale, d'une onction spéciale pour impacter, pour réveiller, pour toucher, pour délivrer, pour transformer. Que les malades soient guéris. Je le déclare et je le confesse. Que les possédés, les démoniaques soient délivrés. Je le déclare, une onction de la délivrance. Je libère cette onction dans l'église. Je libère cette onction dans le corps du Christ. L'onction de la délivrance et l'onction de la guérison. Je libère l'onction pour la conversion. Je libère l'onction pour la transformation des vies. Je libère l'onction. Je libère l'onction prophétique. Je libère l'onction apostolique. Même dans les cellules, tu envoies des hommes et des femmes. Là où pendant que tu as tes mains levées, Dieu dépose son onction sur toi. Là où tu es, Dieu dépose son onction sur toi. Reçois-la. Il la dépose sur toi. Oui, prends au nom de Jésus. Il y a des familles que tu dois amener à Jésus. Des enfants que tu dois amener à Jésus. Des jeunes, des amis que tu dois amener à Jésus. Oui, ma fille, je t'ai appelé. C'est moi qui t'ai appelé. C'est moi qui t'ai choisi. C'est moi qui t'ai mis à part. Une armée de gagnants d'âme.